Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de choisir Studio Tamani pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les grandes lignes de cette édition. Polémique autour des propos tenus par le Premier ministre samedi dernier lors de sa conférence sur le premier anniversaire de la reprise de Kidal par l'FMA. Dr Choguel Kokalamaïga a, dans ses propos, déploré sa mise à l'écart dans la gestion de la transition. Plus de 450 ménages sinistrés et sans abri suite à l'inondation provoquée par les débordements des eaux du lac Debo à Yuwaru. L'eau a emporté sur son passage des maisons et du matériel. Dans l'actualité sportive, nous parlons du sacre du Djoliba AC lors de la finale de la Supercoupe du Mali contre le Stade Malien et la rencontre entre le Mali et l'Eswatini ce mardi au compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ce sommaire vous sera détaillé à l'instant par Lala Diarra Touré. Fili Dambilé est à la technique. Je vous l'annonçais à l'instant, le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga a critiqué la gestion de la transition samedi dernier. C'était à la faveur du meeting organisé par son mouvement, le M5-RFP, à l'occasion de l'an 1 de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes. Le chef du gouvernement de la transition a mis en garde contre un retour en arrière suite à ce qu'il appelle une remise en cause du pacte d'honneur scellé entre le M5-RFP et l'ex-CNSP le 24 mai 2021. Cette sortie du PM a courroucé des mouvements et regroupements politiques soutien de la transition. Fatia Tara pour plus de détails.
Dans son discours, le chef du gouvernement, Choguel Kokalamaïga, a fait part de ses inquiétudes par rapport à la gestion de la transition. Il a déploré sa mise à l'écart du pouvoir avant de dénoncer la prolongation de la transition. La transition était censée prendre fin le 26 mars 2024, mais on a assisté à son report sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement, a-t-il déploré. Le Premier ministre poursuit qu'aujourd'hui encore, il n'existe aucun débat sur la question. Moi-même, en tant que Premier ministre, je me contente des rumeurs de la presse ou d'une interprétation aléatoire des faits et gestes du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a-t-il dénoncé. Choguel Kokalamaïga affirme aussi que le gouvernement n'a aucune information ni sur le programme, ni sur les plans d'action de l'autorité indépendante de gestion des élections, EIGE, chargée d'organiser les élections. Le chef du gouvernement a aussi appelé tous les Maliens acquis pour le Mali Coura au sursaut patriotique. Beaucoup de mouvements et regroupements politiques et soutien de l'armée s'insurgent contre cette sorte du PM. Le collectif pour la défense des militaires, CDM, demande son limogeage pour haute trahison, dit-il. La force civile condamne les propos de Choguel Kokalamaïga. Selon elle, cette réaction porte atteinte à la crédibilité des actions et l'esprit des sacrifices des autorités.
Et pour l'analyste politique, enseignant-chercheur Pierre Claver Bakaroba-Traoré, le discours du Premier ministre est un propos qui présage la mésentente et le mécontentement entre les autorités de la transition et les PM. L'analyste souligne que les autorités se doivent de vite gérer ces différends pour éviter la déstabilisation du pays. Il est joint au téléphone par Fatia Tara.
Que quand on amène de tels problèmes sur la place publique, cela veut dire carrément qu'on n'est pas en train de parler le même langage. Il faut résoudre. Si le Premier ministre est appelé à partir, peut-être qu'il faut que la situation soit claire. Je sais qu'au Mali, nous sommes habitués à faire de la complaisance. Nous acceptons parfois les contraires ou nous faisons marier parfois des choses contraires. Mais à un certain moment, il faut qu'on arrête. Le pays n'a plus besoin de ce genre de complaisance. Il faut qu'on soit franc, qu'on soit honnête dans nos rapports et que la vérité prime. On ne peut pas continuer à jongler ou à jouer avec la gouvernance. Bien sûr, il faudra que des voix sages s'élèvent pour pouvoir apaiser la situation, mais il ne faudrait pas que cela nous amène à une autre crise.
Fidèles auditeurs, vous pouvez donner votre avis sur ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Partons à l'intérieur du pays à présent. Les femmes leaders et jeunes des organisations de la société de Mopti, Djéné, Bandiagara, Douanza, Bankas et Koro ont lancé le samedi 16 novembre 2024 une campagne de sensibilisation sur l'alerte précoce et la prévention des conflits dans les dites localités. La campagne est initiée par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Elle est financée par ONU Femmes. Autre sujet phare de l'actualité de ce lundi, à Yuwaru, un quartier de la ville a été inondé dans la nuit du samedi à dimanche dernier par les eaux du Grand Lac Debo. De nombreuses maisons se sont effondrées et du matériel emporté par les eaux. Cette inondation a fait plus de 450 ménages sinistrés qui restent sans abri. Le point de la situation avec notre correspondant Bamouidi Mahamadoun Kébé.
Dans le quartier Djoudé, Presque plus rien ne reste. L'eau a tout emporté, selon ses habitants. Ces sinistrés affirment qu'ils ont tout perdu.
2 heures pile, on ne savait rien. On dormait, on voyait que l'eau est rentrée dans notre quartier. Nos maisons sont effondrées. Il y a certaines personnes qui ont pu avoir certaines choses, mais d'autres rien.
L'eau coulait de partout. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais toutes nos affaires ont été emportées par les eaux.
Selon le 3e adjoint au maire de la commune rurale de Yoru, M. Amadou Tchao, la ville de Yoru fait face au Grand Lac. Il indique que les causes de cette inondation sont dues au vent.
On a compté à peu près 12 à 15 maisons qui ont complètement détruit parce que Yoru est clôturé de l'eau. Le développement social, on n'a vu personne. Mais on a communiqué avec un agent de développement social au niveau de Bamako. Il dit qu'ils ont appris les dégâts, alors ils vont prendre en compte.
Notons que ces sinistrés attendent l'aide des autorités pour leur prise en charge. Déjà, un agent volontaire de la Croix-Rouge affirme qu'ils ont tous été recensés et que des dispositions seront prises pour alléger leur souffrance. De Yoru, Bamoydi Mohamedou Kébé pour Studio Tamani.
Merci Bamoy Kébé. Un mot de sport dans cette édition. Les Djoliba AC a remporté la Supercoupe du Mali ce dimanche en battant le Stade Malien de Bamako sur le score de 2-0. Au même moment, ce mardi, les Aigles du Mali recevront leurs homologues de l'Eswatini. Cette rencontre rentre dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En basketball, le Mali prépare la fenêtre de novembre des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025. Khalifa Guita pour le résumé de l'actualité sportive.
Dans un match dominé par le Stade malien jusqu'à la 81e minute, le Djoliba AC a réussi à s'imposer 2-0. Les deux buts des Rouges de Bamako ont été inscrits à la 82e et 88e minute. Grâce à sa victoire, le Djoliba AC a reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. Le Stade malien a empoché la somme de 3 millions de francs CFA. Cette première partie fédérale marque l'ouverture officielle de la saison 2024-2025. Ainsi, le championnat national Ligue 1 va débuter le samedi 23 novembre 2024. Déjà qualifiés, les Aigles du Mali tenteront de terminer en beauté devant son public contre l'Eswatini ce mardi à 16h au stade du 26 mars. Dans le cadre des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025, les Aigles s'entraînent activement sous la direction du sélectionneur Aladji Diko. 15 joueurs sont présélectionnés, mais au terme de la préparation, 12 joueurs seront retenus pour représenter le Mali. Les Aigles sont logés dans le groupe A avec le Maroc, la RDC et le Soudan du Sud. Cette phase éliminatoire se déroulera du 22 au 24 novembre 2024 à Dakar, au Sénégal.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
18h08, place aux chroniques. Un prétendu communiqué du ministère de l'Économie et des Finances concernant des investissements a largement circulé sur les réseaux sociaux. Fatoumata Kodjo nous dit si le document est authentique.
Sur la note qui circule, il est mentionné lancement officiel des sessions d'investissement en ligne. Elle signale que ce programme soutenu par des experts de crypto-monnaie assure sécurité et rapidité dans le traitement des transactions. En plus, les personnes qui souhaitent investir doivent s'inscrire uniquement sur WhatsApp en envoyant la photo de leur pièce d'identité, le numéro de téléphone à utiliser pour le versement des gains et les montants à investir. Une grille d'investissement et le rendement est également proposé aux participants. Attention, c'est de l'arnaque. Ce communiqué n'émane pas du ministère de l'Économie et des Finances. L'information a été démentie par le département. Il soutient que toute information diffusée en dehors de ces canaux officiels de communication ne le lit pas. Chers internautes, méfiez-vous du gain facile. Cela permet d'éviter les manœuvres des arnaqueurs et des trompeurs pour soutenir votre argent ou encore vos données personnelles.
Voilà qui est bien noté, Fatoumata Kodjo. D'une chronique à une autre, la rentrée scolaire est effective et certains parents sont stricts par rapport à l'apprentissage des leçons par les enfants. Force est de reconnaître que ce suivi est parfois irrégulier. Mariam Meiga.
Aïssa est en classe d'examen cette année. Dès que Aïssa rentre de l'école, ses grands-parents lui disent d'aller apprendre après avoir fini de manger. Le soir, c'est le tour de papa et maman. Dès leur retour à la maison après le boulot, ils commencent avec des interrogations sur leur fille. Aïssa est-elle à la maison? J'espère qu'elle est en train d'apprendre et non de regarder la télé. Et ce suivi dans l'apprentissage, c'était pareil pour le grand frère de Aïssa lors de son examen au baccalauréat. Mais dans son cas, cette ferveur des parents pour les études n'a pas duré. Plus l'année scolaire avançaient, moins ils étaient réguliers dans le suivi. Conséquence, des leçons s'accumulaient et les résultats scolaires n'étaient plus prometteurs. À côté de Aïssa, il y a le petit Cheikh, toujours focalisé sur autre chose, jamais assidu. Ses parents jurent qu'il est un élève modèle et apprend. Ce qu'ils ne savent pas, Cheikh leur vend de la poudre aux yeux. Sa stratégie, dès qu'il entend ses parents arriver, il se met à chantonner à haute voix ses leçons. Chers parents, sachez que les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. N'oublions donc pas que les enfants suivent les exemples mieux qu'ils n'écoutent les conseils.
Absolument, Mariam Maïga, la constance doit rester mise dans le suivi des élèves. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Imrana Kilumaïga, nous arrangeons dans ce studio pour l'introduction du débat. Bonsoir Imrana, de quoi allez-vous parler ce soir?
Bonsoir, il sera question ce soir des orientations des admis au DF. Pourquoi une si longue attente chaque année? Et nous serons avec Abdel Touré, secrétaire administratif de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves étudiants du Mali, Dr Morike Dambélé, pédagogue, enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Nous avons également sollicité la présence de la cellule de planification et de statistiques du secteur de l'éducation, mais c'est responsables ont plutôt opté pour une interview qu'un débat.
Point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez les réécouter gratuitement et les magazines qui va sur en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Je vous donne rendez-vous demain 8h sur les mêmes fréquences pour d'autres infos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bonsoir. Notre magazine Gouvernance d'aujourd'hui s'intéresse aux bourses nationales accordées aux élèves et étudiants du Mali. Cette allocation financière est octroyée aux élèves dans l'enseignement normal et ceux de l'université. L'obtention de la bourse repose cependant sur des critères liés à la performance et au parcours de l'étudiant. Ces critères sont-ils faciles d'accès? Éléments de réponse dans ce magazine réalisé par Oumarou Egalo.
Je n'arrive même pas à venir tous les jours. Je pars dans un lieu de travail pour avoir quelques sommes. Ça va me permettre de venir un jour.
C'est le témoignage du calvaire vécu par Moussa Kamisoko, étudiant en première année à la faculté d'histoire et géographie. Tout comme Moussa, plusieurs étudiants dans différentes universités de Bamako qui n'ont pas d'allocation financière souffrent beaucoup. Ces étudiants rencontrés dans la capitale malienne avancent que l'octroi de la bourse à l'université est souvent lié à la performance de l'étudiant lors de son cursus scolaire.
En 20 000 francs, quoi. C'est pas facile.
Moi, je n'ai pas eu le point pour trouver la bourse. Ah, c'est très difficile, hein. On va débrouiller ça.
C'est tellement dur. C'est mon frère qui paye l'argent.
J'ai fait 4 ans au lycée, c'est pour cela que je n'ai pas la bourse. Les va-et-vient, c'est pas facile, vraiment.
À côté de ces non-boursiers, ceux qui ont la bourse se résument. La plupart estiment que cette allocation financière est donnée aux étudiants méritants. Pour eux, il s'agit des apprenants qui ont fait un bon parcours au niveau secondaire.
J'ai eu le bac avec une mention assez bien. C'est ça aussi qui m'a permis d'avoir la bourse.
Quand j'ai fait au lycée à 5 ans, donc la première année, je ne voulais pas donc la bourse. Mais quand tu es passé à deuxième année, à celle-là, tu vas trouver la bourse.
J'ai la bourse parce que j'ai fait un des trois au lycée. Donc c'est à cause de ça que je vais avoir bourse entière.
Alors, quels sont donc les critères? Nous nous sommes rendus au Centre national des œuvres universitaires de Bamako. Cet organe est chargé de l'attribution des bourses universitaires. Sur place, Moïse Dambélé est chargé des allocations financières. Il souligne que tous les étudiants maliens réguliers peuvent bénéficier de cet avantage. Mais cependant, des critères existent.
Il y a un certain nombre de critères. Le critère de la performance, la moyenne obtenue par l'étudiant au bac. Le deuxième critère, c'est la scolarité. Ceux qui ont fait 3 ans sans redoubler, il y a ensuite, le critère du genre, c'est accordé généralement aux filles. Après vient le critère de la série, ceux qui ont fait des séries scientifiques.
En revanche, il est bien possible qu'un étudiant perde sa bourse durant son cursus universitaire. Cette perte est liée aux résultats académiques de l'étudiant soutien Moïse Dembélé, chargé des allocations financières au Centre national des œuvres universitaires de Bamako.
Pour le traitement de la bourse, nous utilisons les résultats académiques. Pour qu'un étudiant perde sa bourse, quand il redouble la classe, voilà, il peut perdre une demi-bourse pour la première fois. Si l'intéressé redouble pour une deuxième fois, donc il perd la totalité de la bourse.
La Fédération des associations des parents d'élèves trouve que ces critères ne sont pas aussi difficiles pour les apprenants. Abel Touré, représentant des parents d'élèves au sein de la Commission nationale d'attribution des bourses nationales, affirme que cette somme forfaitaire couvre les besoins essentiels de l'étudiant.
Les critères n'ont pas été choisis au hasard ou bien par fantaisie. Je suis tenté de dire que jamais la somme prévue ne sera suffisante parce que les besoins des étudiants sont toujours énormes. Donc on a beau donner, on se rendra toujours compte qu'il manque quelque part quelque chose.
Rappelons que l'État octroie une bourse nationale à l'endroit des apprenants au niveau des écoles professionnelles à travers le pays. Il s'agit entre autres des écoles de formation des maîtres ou encore des écoles agro-pastorales.